Vous écoutez l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Culture queer, un regard sur les arts et le divertissement.
Ah, on est content, c'est le retour de notre segment Culture queer, notre regard donc sur les arts, le divertissement qui touche les communautés de la diversité sexuelle et de genre. Et c'est le retour du grand Brian Saint-Louis à Québec. Salut Brian!
Bonjour Denis Martin.
On va parler de deux livres aujourd'hui avec toi, de Bière et de fleurs de Victor Bégin et l'autre,
Photo sur demande de Simon Chevrier.
Deux livres que j'ai lus récemment aussi. Et on accueille une nouvelle chroniqueuse cette année, Joëlle Prudhomme, humoriste. Allô!
Oui,
c'est le fun que tu sois là. Et on va parler aussi du show queer qui s'en vient. Et toi aussi, tu vas parler de livres parce que tu reviens du Salon du livre.
Exact. Moi, j'ai passé la fin de semaine au Salon du livre puis j'ai envie d'en parler parce que ça m'a brassé. J'adore le Salon du livre.
Mais moi, je vais vous parler de choses qui nous ont brassé aussi. On reçoit Luc Provost. Luc Provost, c'est la personne, je veux dire, sous la perruque ou le chum de Mado.
Ouais.
Le chum de Mado. Là, Mado est couché et adore, c'est ça?
Ah oui, elle adore de jour.
Mais on va commencer justement avec toi parce qu'on t'invite justement parce que tu es au théâtre présentement. Tu joues au TNM. L'an dernier, c'était au Théâtre du Trident Québec. J'ai vu la pièce Hosanna ou la Sherazade des pauvres, qui est une adaptation de deux textes de Michel Tremblay par Maxime Robin, qui est acteur et metteur en scène. Alors, ben justement, après tant d'années de succès dans la flamboyance et l'extravagance de Mado, Luc, on campe aujourd'hui, est-ce que je peux dire, un vieillard aigri,
oui.
Introverti.
Un vieux ignochon.
Un chialeux, là.
Un chialeux, puis un pas fin.
C'est un rôle de composition de toute évidence.
Bien sûr, parce que moi, je suis une bonne personne, je suis toujours de bonne humeur.
Mais en fait, sérieusement, c'est quand même, Luc, t'as été formé comme acteur. T'as jamais eu la chance beaucoup de jouer comme acteur. T'as plutôt joué comme Mado.
Ça fait 38 ans que je joue Mado. Fait que c'est comme un rôle d'une vie.
Ah, comment tu trouves ça?
Ben, c'est le fun, évidemment. Tu sais, je peux pas dire que je m'ennuie. Puis pour moi, c'était comme un beau cadeau parce qu'après toutes ces années-là, tu sais, tu y crois. Pas que tu y crois plus, j'en rêve plus. Autrement dit, j'avais pas cet objectif-là de dire dans 38 ans, je vais faire du théâtre, je vais lâcher Mado un petit bout. Puis tu sais. Quand il m'a offert le rôle, j'étais pas sûr au début, je vais être capable. C'est tellement longtemps que j'ai pas joué à autre chose, mais à force de rentrer dans le personnage, c'est sûr que ça m'est revenu, là, toutes mes techniques d'acteur. Puis en même temps, j'apprends encore. Ouais. J'ai appris à Québec, puis là, je me suis amélioré, je pense, à Montréal. Puis...
Mais c'est ça, les gens disent que t'es encore meilleur.
Ben oui, tout le monde me dit ça, c'est le fun.
C'est quand même, t'es présent tout le temps sur scène ou à peu près, sur ton petit
tout
balcon.
Le temps. Je suis là du début à la fin, même j'arrive 5-10 minutes avant tout le monde parce que je vais étendre mon linge sur mon balcon, je prends une cigarette, je bois un verre, puis toutes des choses que je fais pas dans la vie, moi.
Ou peut-être que tu fais plus dans la vie.
Je n'ai jamais fumé, puis je ne bois pas vraiment, puis j'ai tendu linge sur un rack en bois dans chez, mais pas sur une corde à linge.
J'ai jamais séché mon linge.
Non, non, c'est parce que j'ai pas de sécheuse. Des fois, le monde me dit, t'as pas de sécheuse, comment tu fais pour vivre? Ben là, j'ai pas dit que j'avais pas de poumon, j'ai pas de sécheuse. Fait que j'ai tendu sur un rack de bois, tu sais.
Oh, oui. En fait, on dit que l'œuvre de Michel Tremblay a inspiré le personnage de Mado, c'est vrai?
Ben en fait, je me suis inspiré de ses écrits un peu les belles-sœurs, les personnages de travestis de l'époque. Puis, tu sais, j'avais aussi les textes de Clémence Desrochers. J'ai été inspiré à droite et à gauche, puis j'ai fait quelque chose avec ça, puis ça a donné Mado. Tu sais.
Puis là, maintenant, c'est quand même une pièce emblématique. Hein? Hosanna, il y a la pièce de théâtre qu'on a connue, Hosanna, avec Huirette et puis Hosanna. Mm-hmm. Et là, La Sherazade des pauvres, c'est un roman. Et là, on retrouve justement Hosanna, qui est plus Hosanna, qui
non,
joue, fait
Claude.
Plus.
Claude Lemieux, 50 ans plus tard, il est rendu à 75 ans, puis il est sur son balcon, puis il chiale, puis il jase un peu avec son voisin, mais dans la pièce, le voisin n'est pas là.
Sur scène, la pièce inclut trois versions d'Hosanna, c'est-à-dire la version de la pièce originale, la version qui est toi, et la version d'un petit garçon.
D'un enfant. Ben, l'enfant à l'époque où Claude avait 10 ans à peu près. Là.
Ouais.
Puis c'est comme pour voir un peu ses débuts avec sa mère était couturière, puis là, il prenait les robes de sa mère, puis il les essayait. Puis déjà, il y avait le sentiment de peut-être qu'il y avait le goût d'essayer ça. Là, t'sais. Son identité de genre à l'époque. Il ne pouvait pas savoir vraiment qu'il avait peut-être envie d'être une fille. Mm. Mais tu sais, on le fait sentir un peu dans la pièce. T'sais.
Parce que la pièce originale, ça se termine en disant « Je suis un homme, regarde-moi, mais on n'est plus là. »
Mais tu sais, même dans la pièce originale, à un moment donné, il dit « Je ne savais pas qu'en étant tapette, je pouvais être une femme si je voulais. J'avais envie d'être une femme, je pouvais le vivre, j'avais le droit. »
C'est ça.
Puis tu sais, le petit gars, ben, c'est un peu ça, que quand il s'essaye la robe, puis il bouge un peu devant le miroir, puis le vieux, ben là, finalement, il est sorti de tout ça complètement, là, tu sais.
Moi, j'avoue, quand j'ai vu la pièce, je vais demander à notre ami Brian, qui l'a vu à Québec aussi, moi, j'ai été totalement... ça m'a jeté à terre. Je vais pas révéler la finale, parce qu'il n'y a rien
non,
de pire, y a rien de pire quand on fait des entrevues de théâtre puis les gens révèlent des choses.
Non, je
et moi,
pas
ça
non
m'a
plus
jeté à terre. J'ai été ému, comme je m'attendais pas du tout à ça. Brian, comment tu as réagi, toi, quand tu as vu la pièce à Québec?
Bien, c'est une pièce qui est très émotive, bien sûr. La performance de Luc, d'ailleurs, mentionnait la belle sensibilité. J'étais surpris, je ne pensais pas qu'il y avait une belle sensibilité, douceur aussi. Bon, c'est un personnage aigri, mais quand même, tout en émotion, là, la performance était très belle. Mais une pièce d'histoire aussi, il y a des moments historiques qu'on revisite dans cette pièce-là, au moment où ça a été écrit, c'était plus actuel presque. Nous, les jeunes, maintenant, on arrive là, on apprend des choses sur l'histoire de la communauté, l'histoire de comment ça se passait dans des lieux de rassemblement, vraiment, il y a plusieurs années. C'est de voir à quel point, comment ces gens-là s'organisaient à ce moment-là. Ça, c'était vraiment très intéressant de voir un peu les débuts de ce qui allait devenir une scène qui allait prendre beaucoup plus de place là, dans quelques années.
Mon Dieu, Luc, on te fait des compliments, une belle sensibilité.
Je l'entends encore aujourd'hui, puis je pense que moi-même, je suis un être sensible, fait que ça se reflète dans mon jeu. Mais c'est vrai ce qu'il dit, parce qu'à l'époque, tout se passait sur la Maine.
Ouais.
Puis tu sais, on sait pas, tu sais, il y a un village à Montréal maintenant, mais il n'y avait pas de village à l'époque. Puis ça se passait sur la rue Stanley à un moment donné, mais au début, c'était sur Boulevard Saint-Laurent, il y avait des cabarets cette région-là, sur Sainte-Catherine, puis c'était le point chaud de Montréal. Fait qu'on apprend là-dessus, puis ça se passe aussi pendant les Jeux olympiques, ça se passe aussi pendant l'année de l'Expo, puis on parle du métro de Montréal, tu sais, fait qu'il y a comme un peu
d'histoire. Puis dans le roman, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, puis c'est tellement bien adapté sur scène, mais dans le roman, tu sais, là, il y a comme cette dichotomie, je peux dire. Tu sais, t'as les plus vieux des communautés puis les plus jeunes. Tu sais, cette journaliste qui arrive oh my God, t'apprends avec des
pincettes. Elle pose des questions puis des fois, le vieux s'impatiente.
Ouais.
Moi, je me dis, voyons, tu connais pas ça, voyons. Pourquoi tu connais pas ça? Mais
ouais,
tu sais, comme un écart de peut-être 45 ans avec elle puis moi, là, mon personnage.
C'est assez intéressant parce que je vais en parler un peu plus tard, mais on dirait qu'il y a beaucoup de pièces de théâtre. Il y a eu N'essuyez jamais de larmes sans gants au Trident, il y a eu Hosanna, et là, il y a Corps fantôme là, qui vient de terminer à Montréal. On dirait que nos histoires finissent par être racontées.
Oui, enfin. Enfin, c'est plus dans un aparté, dans un magazine, dans la dernière page en arrière, là, c'est front page.
Bon, alors pour assurer les gens, Mado est juste endormie là, présentement.
Hein? Oui, elle n'a pas fini sa carrière déjà. Parce que souvent, c'est un petit bout, je parle au cabaret, puis là, déjà, t'as-tu fini? Non. Elle prend une pause, bien méritée d'ailleurs.
Mais de toute façon, il faut qu'elle prenne une pause, elle veut garder ses 38 ans.
Ben voilà, ça va être toujours jeune. De toute façon, le temps des fêtes s'en vient, fait qu'elle va être là en masse.
Voilà.
Mado, on apprend que... Il me semble que tu avais fait de la madographie, puis là, il y a comme un autre livre qui s'en vient.
Non.
Non, OK. Je pensais qu'il y avait que...
Non. On m'a demandé si c'était pour avoir une suite. J'ai dit peut-être. Si j'ai le temps, j'écrirai les aventures rocambolesques de Mado en voyage, là, parce que tous ces voyages qu'elle a faits, c'est assez drôle à raconter.
Je trouve ça intéressant, tant que tu pars en voyage. Non, soit tu restes en arrière, puis elle part en voyage.
Mais en fait, moi, je pars en voyage, je la regarde aller. Après ça, j'écris sur elle.
Mais sérieusement, Mado, c'est quand même c'est la drag queen, je pense qu'après Gilda, puis en fait même tu t'as dépassé Gilda en termes de reconnaissance et même t'es connu en France partout. T'es quand même est-ce qu'on peut dire la
reine mère.
La reine mère.
C'est ce que je dis parce que maintenant il y a des nouvelles reines, tant mieux, mais moi je dis toujours Mado, c'est la plus vieille, fait qu'il y aura personne au-dessus.
C'est
à part
ça.
Dieu. Il y a Dieu, puis il y a Mado, la reine mère, puis après ça, il y a la trollée de reine qui suit. Rita, Mona, Gisèle, Barbada.
Tu restes avec nous?
Oui, bien sûr.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot.
Alors là, on va passer à Joël.
Allô?
Allô, Joël. J'ai vu une promo qui m'a fait rire, rire aux larmes. Gisèle est là-dedans.
Ouais.
Tracy Trash.
Tracy, ouais.
Et... Mais là, il y avait mon invité du début de l'émission aujourd'hui, Manon Massé.
Absolument, Manon est venue avec nous, puis elle a volé le show, là. C'est vraiment très drôle.
Vous aviez l'air d'une gang de pogo.
Oui, exact, on n'a rien de moins.
Alors, excuse-moi, quand je ris, ça me fait tousser ces jours-ci, mais dis-moi, ce show-là, donc, il reprend sa tournée. Qu'est-ce qui se passe?
Exact. Le show queer, ben, en fait, il a pas arrêté. Fait qu'on repart, on relance en 2026 plein d'autres nouvelles dates partout à travers le Québec. Fait qu'on se promène vraiment pas mal. Il y en a une dizaine qui viennent de sortir en amont. Ouais. Mais il y a d'autres dates qui vont se rajouter. On va toujours mettre à jour nos pages et tout ça. Là. Fait que 2026, ça a été une grosse année aussi pour le show queer.
Pourquoi on appelle ça show queer déjà?
Ben parce que c'est un show où, oui, hein, c'est belle petite poque, petite poque sur la palette. Le show queer, parce que tous les artistes sur scène sont queer. C'est la promesse qu'on fait, puis dans le fond, ce qu'on vend, c'est le safe space que ça crée en ayant des artistes complètement queer sur scène, humoristes, c'est un show d'humour. Donc, tous les humoristes sont queer, et tous les personnes dans le public, ben, sont soit queer, soit alliés, soit super ouverts, ouvertes. Fait qu'il y a comme, ça fait vraiment un safe space autant pour les artistes que le monde dans le public. C'est vraiment, et c'est très, très drôle parce que c'est des artistes de haut niveau. Fait que c'est super bon.
Donc, Manon, là, est pas là pour le vrai?
Manon, écoute, l'appel est lancé. Si elle veut faire du stand-up, elle a bienvenue au show queer, faire le découverte du show queer.
Parce que elle monte sur scène régulièrement, elle lit des textes, hein, elle a fait soirée de ce qu'elle appelle le cabaret queer, là,
oui, accent queer, oui.
Mm-hmm. Ah, ça pourrait être bon.
Ça serait super.
On inviterait peut-être Mado.
Ben oui, en plus, j'allais te dire, j'étais au Mado hier, c'est vrai.
Ah
drôle.
Oui, elle n'était pas là.
Non, Mado n'était pas là. Tous les dimanches, il y a l'improvisation au cabaret Mado, fait que j'en fais partie.
OK.
La Gay-Laxie, donc voilà, j'étais là.
Là, je pose la question à vous deux, puis même à Brian aussi. Finalement, on est capable de rire, hein?
Ben, c'est un peu ça l'idée du show queer, hein? C'est de montrer que... Parce que parfois, des rassemblements queer, ça vient avec le côté militantisme et dur, qui est, ma foi, tellement important. Puis il n'y a pas eu de changement sans le militantisme, on est d'accord. Mais moi, je veux aussi amener le côté rassemblement positif, puis vraiment le rassemblement dans le rire. Puis, mes artistes humoristes sur scène, ils ne parlent pas nécessairement de la communauté. Ils vont parler de n'importe quoi. C'est une carte blanche.
Ouais.
Souvent, et elles vont en profiter pour parler de leur coming out ou pour parler de certains enjeux qu'ils ont traversés. Parce que c'est libérateur, mais c'est pas obligé. Fait qu'on a des numéros qui ont tellement pas rapport, puis que c'est juste une anecdote super niaiseuse, puis ça fait du bien de rire tout le monde ensemble dans un safe space. Là, c'est malade, ces shows-là.
Ça fait longtemps là, que tu ris, en fait, que Mado te fait rire ou que Mado nous fait rire. Est-ce qu'on rit? On est capable de rire dans notre communauté?
Ben oui, on est capable de rire de soi aussi.
Mais ça a changé un peu, hein?
Ben, à l'époque où j'ai commencé, on riait déjà beaucoup. C'était peut-être un petit peu plus hard.
Ouais.
Là, on fait attention un peu plus à ce qu'on dit, puis c'est normal, tu sais. La communauté a changé, elle évolue, puis tu sais, puis c'est plus des revendications. Oui, il y a encore des revendications, puis c'est important de les avoir, mais on peut se lâcher lousse, puis parler d'autres sujets, puis on est obligé de parler juste de queer.
Ouais.
Puis c'est son seul fun, parce que ça banalise un peu, pour le mieux.
Même que je dirais qu'on est une communauté avec beaucoup d'autodérision, puis beaucoup de running gags, d'inside, puis au contraire, je dirais que les... Puis en plus, en termes de public, là, pour être humoriste depuis 5 ans, le public au show queer, il est quelque chose, là. Ça arrive fort, c'est loud, on existe, là, c'est vraiment le fun.
Ça choque plus, c'est ça qui est le fun. Tu sais, à un moment donné, ça choquait, au moment où on disait « t'es provocant », tu provoques. Non, je provoque pas, je dis des affaires un petit peu plus...
Ouais.
Un petit peu plus hors norme, mettons, là, à l'époque, je parle.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a des choses que Mado peut dire en tant que Mado que Luc ne pourrait jamais dire?
C'est sûr, à l'époque, bien sûr, des fois, dans la moquerie, des fois, dans la bitcherie, là, une drag queen, ça peut dire bien des affaires.
Ah oui!
Qui lui sont pardonnées.
On salue Mona de Grenoble.
Oui, bien, c'est ça, d'ailleurs. Je pense que le spectacle de Mona, sans
en
Mona,
entier.
Là. Ouf, je ne sais pas si ça passerait.
Ah oui, exact.
Bien, écoute, Joël, on va revenir à toi. Je vais tout de suite aller faire un petit tour du côté de Brian. Brian, on va parler de littérature. Puis je pense que ça donne bien parce qu'on a deux livres qui parlent, à partir d'un point de vue queer, mais on parle de thématiques qui ne sont pas nécessairement des thématiques queer. Je pense entre autres, on peut commencer avec De bière et de fleurs.
Oui, si tu veux. Nouveau roman de Victor Bégin, paru chez Tintin.
Puis qui parle beaucoup de comment on réagit quand quelqu'un disparaît, puis ce qui est attendu de nous. Puis j'ai vraiment, moi, ça m'a vraiment parlé, mais c'est pas. Oui, il y a beaucoup de choses queer qui se passent, mais je pense que la thématique va au-delà.
Oui, c'est vraiment plus un roman sur le deuil, la disparition, la reconstruction de la personne qui est laissée derrière. C'est l'histoire d'Alexis. Son chum disparaît. Il est supposé aller rendre visite à un ami en Beauce, à une tante à Sherbrooke, prend sa voiture, part. Il n'y a absolument rien de spécial à signaler. Il ne reviendra jamais. On ne le retrouve pas. On ne sait pas où il est. Et Alexis, qui est en couple avec lui depuis quand même plusieurs années, ben, se demande qu'est-ce qui est arrivé. Mais lui, il est laissé derrière, il est à la maison. Je vais le mentionner un peu plus tard dans le roman. Dès cet instant-là, je savais qu'il n'allait pas revenir. Et là, on va suivre Alexis dans son espèce de deuil, justement. C'est pas... Là, on parle de disparition. J'en parlais avec des amis en fin de semaine. Ce n'est pas un roman policier. Ce n'est pas un thriller. On n'est pas vraiment dans la quête de qu'est-ce qui est arrivé à Anatole. On est plutôt dans la reconstruction d'Alexis, qui passe au travers de plusieurs étapes, des étapes de deuil, mais pas les étapes traditionnelles. On va plutôt être dans la... essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais là, il va... toucher les objets qu'Anatole a laissés derrière, il va mettre son linge, par exemple, il va continuer de vivre sa vie, il va avoir des explorations, il va essayer de sortir avec quelqu'un d'autre, il va rencontrer des amis, mais on est toujours un peu dans cette espèce de reconstruction de soi. Donc, c'est une œuvre très touchante, parce qu'on suit un peu son évolution avec lui par rapport à cette disparition-là. Je l'ai mentionné, par contre, c'est pas un thriller. Non. Donc, peut-être pas un roman qui nous tient en haleine, c'est quelque chose. Il y a le défaut de sa qualité un peu d'être justement très introspectif, d'être dans la reconstruction de soi. C'est quelque chose de lent, on le suit pendant plusieurs semaines, cette histoire-là. Donc, ça va être un peu un roman plus lent. Peut-être pas un gros thriller, mais avec beaucoup de tendresse et de délicatesse dans cette écriture-là.
Puis je me permets de dire comment ça se termine. On le retrouve pas, Anatole. Je pense que c'est pas important de le retrouver ou pas. C'est pas ça le but du roman.
Non, on continue de se demander, il va-tu le retrouver? Puis à un moment donné, on comprend que c'est vraiment pas ça, justement, le thème. C'est plus... Puis j'ai vu des entrevues avec Victor Bergin qui disait on se fait tellement ghoster dans nos histoires, oui, ces temps-ci. Des gens qu'on perd de vue, qui disparaissent. C'est important d'aborder un peu ce thème-là aussi de la disparition, de comment on réagit, nous, ceux qui sont laissés derrière. Là. Même si c'est des petites disparitions, elles ne sont pas toutes aussi tragiques que celles qu'on retrouve dans le roman. Mais très intéressant. Et ça se passe dans les rues de Québec aussi. Donc, pour moi, il y avait un petit côté intéressant. Quelques détours en autobus que je ne m'expliquais pas toujours nécessairement. Mais bon, il y a du noctem, il y a des fleurs, il y a des iguanes aussi dans ce roman-là. Donc, une belle plume. Il continue d'évoluer comme romancier, Victor Bégin.
Alors, je répète donc, De bière et de fleurs de Victor Bégin, c'est publié aux éditions Tête Première. L'autre roman m'a beaucoup interpellé aussi. C'est un roman français, Simon Chevalier, oui. Photo sur demande.
Qui est paru il y a quand même quelques mois, mais je voulais en parler quand même parce qu'il a remporté un grand prix. Il a remporté le prix du premier roman, le Goncourt. Donc, quand même un prix d'importance. Donc, ça montre que c'est un ouvrage de qualité qui est très bien écrit. C'est d'ailleurs ça qui rend le roman le plus intéressant, là. Ce style syncopé-là où on suit le narrateur. Mais dans différents moments de sa vie, notre vie, elle est tous comme ça. Hein? Je veux dire, on est tous des puzzles où on a différentes facettes de notre personnalité qu'on essaie de joindre. Lui, c'est un peu ça. Il y a des histoires avec sa famille. Il y a des histoires où il cherche quoi faire dans sa vie. Il abandonne les études un peu, se cherche du travail. Il y a des difficultés économiques. Il est dans la France où le coût de la vie est assez cher. Il y a de la misère à se loger, de la misère à se nourrir. Au même moment, ben, il cherche l'amour aussi dans une communauté. Ben, et là, on va voir que c'est à Paris ou à Québec, c'est à peu près la même chose. Tout le monde se connaît. On se retrouve tout le temps dans des espèces de microcosmes où tout le monde se fréquente les uns les autres. On voit son honnête quête d'amour, puis ça ne fonctionne pas nécessairement toujours. Donc, on suit ça avec lui. Il essaie de rester au-dessus de tout ça, mais c'est plutôt difficile. Aussi, ben, il va s'adonner à... il va devenir un peu escorte sur Internet, propose ses services. C'est une façon pour lui d'arrondir ses fins de mois. Je parlais de difficultés économiques. Donc, il y a ce côté-là. Donc, on essaie de le suivre socialement, personnellement, professionnellement. Il va avoir des éléments de quête d'identité aussi plus loin qui vont apparaître dans le roman. Et au travers de tout ça, il y a une photo sur la jaquette du livre que tu as. On voit un homme qui suce un orteil. Mm-hmm. C'est une chose très particulière et on se demande pour que c'est faire que c'est là pour l'amour. D'autant plus que c'est pas un orteil n'importe lequel, c'est son orteil à lui. Donc, on apprécie la souplesse de ce monsieur.
Oui.
C'est une vraie photo qui a été prise dans les années 70. Et lui, cette photo-là, elle est affichée chez un de ses amis. Et le narrateur part un peu en quête à se demander, c'est qui ce gars-là? Pourquoi on ne trouve pas de trace de lui sur Internet? Qui était-il? Il y a eu une vie, je veux dire. Qu'est-ce qui est arrivé? Il part un peu en quête pour essayer de découvrir qui c'était ce gars-là. Et on le voit à travers toutes les difficultés que lui-là, en tout cas, moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai interprété. Il aurait donc bien aimé que ça se passe bien pour ce gars-là, ou qui, à qui il s'identifie. Il aurait aimé ça que, ah, c'était difficile la fin des années 70, c'était difficile pour lui, j'aimerais ça que ça se passe bien, qu'un jour je trouve des nouvelles de ce gars-là et que j'apprenne que tout va bien passer. Mais à suivre, est-ce que cette quête-là va bien se passer dans le roman, vous le lirez. Mais c'est syncopé, un beau rythme, c'est intéressant, une belle plume à découvrir. Je crois que ça a été plus distribué au Québec là, après qu'il ait gagné le Goncourt.
Oui, oui. Moi, je l'ai eu en début d'été. C'est un cadeau qui m'avait été envoyé de l'Europe. J'étais très content de lire ça. Simon Chevrier, photo sur demande chez Stock.
C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot.
Alors, on va continuer. On va continuer maintenant. Je retourne à nos sujets.
Oui.
Joël, tu reviens du Salon du Livre.
Je reviens du Salon du Livre, exactement. J'adore, je l'ai dit tantôt, j'adore le Salon du Livre. Je salue ma mère qui a passé mon enfance à m'y amener. C'est tellement adapté aux jeunes enfants, c'est malade. Donc, et moi, je vais vous parler de mes trois trouvailles de cette année, mais un mensonge siglige, il y en a un que j'ai acheté l'année dernière, mais c'est pas grave. Je vais dire trois trouvailles de cette année qui
sont
des...
C'est un mensonge pieux. C'est moins pire que les mensonges Trump. Hein? Voilà.
C'est trois coups de cœur que j'ai québécois, que j'adore. Je vais commencer parce que tantôt, tu as parlé que dans la communauté, il y a souvent des livres qui sont adaptés au théâtre. Cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est une pièce de théâtre qui a été adaptée en livre,
oui.
Que j'ai vue deux fois plutôt qu'une. J'aime tellement cette pièce de théâtre-là. Ça s'appelle Ciseaux de Geneviève Labelle et Mélodie Noël Rousseau. Donc, Ciseaux, dans le fond, c'est l'histoire, l'anthropologie de l'histoire lesbienne du Québec. C'est incroyable. Et le travail de recherche qui a été fait est vraiment, vraiment
c'est monumental.
C'est monumental. Tu l'as vu aussi?
Je l'ai vu. J'ai vu deux fois, moi aussi, la pièce.
C'est
Est-ce qu'il y a d'autres qui l'ont vu dans le groupe?
Malheureusement, j'ai voulu la voir souvent, mais à chaque fois...
C'est vraiment spectaculaire. Puis j'avais acheté le livre pour être la fatigante. Parce que, tu sais, le théâtre, c'est éphémère.
Ouais.
C'est d'ailleurs pour ça que je suis en deuil de ne pas avoir vu Corps fantôme. Il ne faut pas trop y penser. Mais le théâtre...
Livre.
Oui, c'est ça. Donc, d'avoir le livre, je vais pouvoir le prêter à plein de gens puis les forcer à le lire parce que c'est, je considère, important même, surtout avec l'invisibilité que les lesbiennes peuvent subir, d'avoir une pièce comme ça qui est un chef-d'œuvre en soi, mais qui aussi est très informative. Fait que vraiment, Ciseaux, je le recommande à tout le monde, celles et ceux qui n'ont pas eu la chance de voir la pièce. Cette année, je suis tombée sur... Les queers qui ont changé le monde de Samuel Larochelle.
Mm-hmm.
Et puis ce que j'aime vraiment beaucoup de ça, c'est le format en fait. Je vais être honnête et c'est pas du tout une insulte, c'est l'inverse pour Samuel, mais il est dans ma salle de bain ce livre-là et j'adore pouvoir prendre les petits moments que j'ai dans ma journée pour aller. Tu sais, ça se lit tellement bien.
C'est une simple lecture, ça aussi.
Oui, la lecture de toilette.
Ah ouais. Ça
c'est super le fun de pouvoir justement en apprendre un peu plus sur des personnes queer qui ont eu un impact sans que ça soit nécessairement lourd à lire. Tu sais, chaque personne qui le décrit est très rapide. Là. Fait que c'est super bien, puis sa préface est merveilleuse, c'est bien expliqué. Il y a un gros lexique du vocabulaire queer à la fin,
ouais.
Fait que je le trouve super accessible pour les personnes qui sont pas nécessairement habituées. Fait que je trouve que c'est vraiment... Tu sais, il dit dans sa préface que le public cible, c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde, tu sais, comme les personnes qui veulent, qui sont curieux, curieuses. Puis je trouve que c'est bien réussi.
On dira pas là, les hétéros curieux.
Les hétéros curieux, voilà. Et finalement, j'ai aussi accroché sur 11 brefs essais queer.
Ah, ça, c'est superbe, oui.
Ouais, j'ai pas eu le temps de tous les lire pour l'instant parce que lui, je l'ai acheté en fin de semaine. Mais j'admire vraiment le côté chaque personne, chaque autrice ou auteur très, très, très différent. Ça paraissait qu'elle avait genre une carte blanche. C'était vraiment incroyable. Il y a de la poésie, de la prose, il va y avoir des nouvelles. Puis je trouve, j'ai toujours aimé, moi, les rassemblements d'auteuristes dans un petit format. Puis je trouve qu'on était dû pour en avoir justement de version queer au Québec. On était vachement dû. Donc voilà pour mes trois petits coups de cœur.
Bien, moi, je vais vous parler des miens, parce que moi aussi, je m'en donne aussi des petits coups de cœur. Et le mien, bien, on va commencer par Corps fantôme au Théâtre du Cep. Un événement théâtral colossal, nécessaire. J'ai vu la pièce trois fois. Toi, tu l'as vu, Luc, aussi?
Oui, une fois.
Et chaque fois, j'ai été traversé par l'émotion. On retourne à une époque pas si lointaine où être gay ou lesbienne était une maladie mentale. Parce qu'on se rappelle, hein, l'OMS a retiré ça de ses livres, de ses guides, en 1990. Ça veut dire que j'ai avant 90, j'étais malade mentale. Là, maintenant, je pense quoi? On ne rentre pas là. Une époque où nos vies ne comptaient pas non plus. Nous étions des citoyens de deuxième classe. Les meurtres, les violences et la répression policière, là, on parle des années 90, là, étaient de mise. une époque où le VIH est devenu une pandémie parce que les élus de l'époque n'ont rien fait, parce que cette maladie affectait surtout des hommes gays, encore une fois, des citoyens de seconde classe, des personnes mal aimées. Moi, j'ai vécu cette période-là du temps que j'étais basé, non pas à Montréal, mais en Alberta, l'avant-dernière province à interdire la discrimination sur la base d'orientation sexuelle, juste avant l'Île-du-Prince-Édouard. C'est un beau classement.
Les derniers, c'est l'Île-du-Prince-Édouard?
Oui, l'Île-du-Prince-Édouard. Puis c'est la même Alberta qui invoque maintenant la clause dérogatoire de la Constitution canadienne pour réduire les droits des personnes trans et non-binaires, créant à nouveau une catégorie inférieure de citoyens. Cette pièce nous fait revivre, dans le cas de nous, les plus vieux, on peut se le dire, toi puis moi, Luc, on revit des choses qu'on a vécues. Puis je pense que ça fait vivre aux jeunes des choses qu'ils...
Ouais. J'allais le dire, ma génération à moi, qui se trouve être entre milléniaux et Gen Z, on va dire, bien nous, c'est l'inverse. C'est un peu, on apprend à... Parce que je trouve ça un peu comme N'essuie pas de l'âme sans gale l'était. C'est tellement une fenêtre sur une partie de l'histoire qu'on connaît pas assez. Fait que oui, j'ai pas vu la pièce, mais avec tous les gens autour de moi qui m'en ont parlé, c'est unanime. Les gens sont contents d'avoir cette bribe d'histoire-là.
Moi, je dis que c'est un chef-d'œuvre, Luc.
J'acquiesce, j'approuve. Ben, c'est un chef-d'œuvre. C'est nécessaire.
Ouais.
Je pense que de voir ce moment de notre histoire sur scène, ça m'a beaucoup touché, moi aussi, oui.
Alors, on va espérer que peut-être que ça va reprendre. C'est assez compliqué parce qu'ils sont comme 19 sur scène. Oui, c'est un gros show et ça dure 3h30.
Moi, j'espère. J'envoie toutes les énergies qu'il faut là, pour... Je manifeste le fait que je veux revoir Corps Fantôme. Donc, puis, il va falloir qu'elle vienne.
Mais Danny, est-ce qu'il part en tournée?
On ne sait pas.
C'est un mystère.
Là, Danny Boudreau est un auditeur assez régulier de l'émission et Max Carbonneau aussi. Ça fait qu'on va espérer qu'il nous écoute.
Oui, il faut qu'il entende mon manifeste. Là.
Alors, moi, je vais rapidement vous dire aussi que j'ai vu l'excellent long-métrage de Léa Poul sur un scénario de Michel-Marc Bouchard. On sera heureux. En tout cas, c'est assez touchant, assez révélateur de ce qu'on vit présentement. Mais c'est pas drôle d'être immigrant, surtout quand on est queer. Non. Ah, c'est ça.
L'intersectionnalité aussi, là,
c'est
des défis.
C'est pas facile. Il nous reste une minute et demie. Je pense que je vais... Il t'arrive quoi après ça, Luc?
Il m'arrive quoi? Ben là, on part en tournée au mois de janvier avec la pièce.
Ah ouais?
Oui, on fait une dizaine de villes au Québec. Fait que checkez ça dans vos horaires de journaux puis sur Internet. Puis après ça, ben c'est des surprises, je sais pas.
Ben là, moi, je me lève saison, un matin, t'as un gars, une fille ou t'as quand même été...
J'ai déjà fait, c'est fait.
C'est fait, il en faut pas d'autres, là,
Mais ben, je veux dire, en fait, j'ai fait un épisode, ils vont peut-être en faire d'autres, mais je suis pas un abonné d'un gars, une fille. On va peut-être me voir dans un stat ou...
Ouais, voilà. On sait donc jamais. Rapidement, merci beaucoup, Brian. On va suivre d'autres romans dans les prochains... On va parler de Gabriel Bouillant-Trambier éventuellement.
Oui, il y a beaucoup de choses en livre cette saison quand même, donc attendez pas que je vous en parle, là, au Salon du livre, il y en avait plein.
Ah oui!
On est au théâtre, mais on est dans les livres.
Exactement. Moi, je dois immédiatement, il ne me reste pas beaucoup de temps, je vais remercier l'équipe, Godéric Trob et Marie Massé à la recherche. Merci Mathieu Tessier à la mise en onde. Je m'appelle Denis-Martin Chabot, je suis le réalisateur et l'animateur de L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là.
Plaisir!